La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin encore, l'obscurité, la peur et les bombes.
Oui, en admettant qu'il existe un barème de l'horreur et que mesurer le pire est encore un sens, alors c'est la nuit que les bombardements sont ici les plus terribles. Dans les quartiers à l'est d'Alep, tenus par les rebelles, il n'y a pas d'électricité, de sorte que lorsque les avions survolent la ville, la moindre source lumineuse transperçant l'obscurité, aussi discrète soit-elle, se transforme aussitôt en cible à abattre. Et voilà pourquoi, raconte ce matin le Washington Post, la nuit venue, en attendant que tombent les bombes, les familles attentives au grondement des moteurs au-dessus de leur tête se blottissent dans le noir, tous réunis dans une seule et même pièce pour ne pas mourir seuls, le cas échéant. Juste après, vient le temps des secouristes qui, toujours dans le noir, pour ne pas être repérés, s'aventurent dans les décombres, sans lampe, naviguant parmi les cratères et creusant pour retrouver les victimes. Ils les transporteront ensuite vers les hôpitaux submergés, où les patients sont traités à même le sol par des médecins épuisés, obligés de choisir parmi ceux qu'ils pourront peut-être sauver et les autres qu'ils devront laisser mourir. Un casque blanc volontaire à Alep raconte, toujours dans les colonnes du journal américain, que parfois les équipes de la défense civile interceptent les communications des pilotes dans les avions volant au-dessus de leur tête. Nous entendons ces pilotes dire à leur base « marché pour terroriste en visuel » ou bien « boulangerie pour terroriste en visuel, demandons ordre de tirer ». À chaque fois, ils utilisent le qualificatif de terroriste et la réponse est invariablement la même. Tuez-les. Hier, alors que le jour venait enfin à peine de se lever, les deux plus grands hôpitaux de la partie rebelle de la ville ont été frappés, l'un par un raid, l'autre par un tir d'artillerie, tuant au moins deux patients. Voilà donc à quoi ressemble la vie aujourd'hui à Alep, dont le quotidien est rythmé depuis déjà 4 ans par ces frappes aériennes régulières, mais qui n'avait jamais atteint une telle intensité. Pour preuve, les photographies postées par les médecins montrant des patients couchés dans des mares de sang sur les planchers d'un hôpital. Toujours dans les colonnes du quotidien américain, un chirurgien qui, depuis sa clinique au Canada, conseille via la messagerie Skype ses confrères à Alep, explique par manque de moyens « Nous n'avons pas d'autre choix que de trier les patients et c'est la chose la plus difficile à faire. Les anesthésiens ont déjà été entièrement utilisés dans la plupart des hôpitaux et d'ici 2 semaines, il pourrait ne plus en rester un seul dans aucun des établissements de la ville. Sur place, précise à son tour The New York Times ce matin, on estime à 35 le nombre de médecins toujours en activité à l'est d'Alep, soit 1 pour 7000 habitants. Et sur ces 35, 7 seulement sont des chirurgiens capables de traiter les blessures les plus lourdes infligées par les bombardements. Alep, ville martyre donc. Et alors que les bombardements russes et syriens sont quotidiens, alors que les hôpitaux sont détruits, que les corps s'amoncellent dans une horreur continue, comme le montre The New York Times avec une série de vidéos impressionnantes au milieu du sang et des larmes, voilà que l'agence d'information syrienne Sana a tweeté il y a quelques jours une vidéo presque aussi terrible que celle des survivants blessés ou des corps ensevelis, rapporte à nouveau The Washington Post, cité par le magazine Slate. On y voit des jeunes souriants et dansant en boîte de nuit, accompagnés d'un message encore plus nauséabond. Alep, désormais surnommée la ville la plus dangereuse du monde, possède encore une vie nocturne en plein essor. Ce tweet est accompagné d'une vidéo filmée cet été, probablement dans les quartiers ouest de la ville occupée par le régime. Il y a quelque temps d'ailleurs, la correspondante en chef du Post à Bagdad a pu voir justement la vie s'écouler dans ces quartiers sous bonne garde, bien entendu, des familles pique-niquent tandis que les enfants font la queue pour acheter des ballons et du pop-corn quelques kilomètres plus loin. Dans un campus universitaire tentaculaire, des milliers d'étudiants attendent pour entrer en classe. Au centre-ville, les cinémas projettent les derniers films d'Hollywood. Dans la soirée, les restaurants se remplissent. Au Foresta, dans le quartier le plus hype, un morceau de David Guetta retentit. Tandis qu'une jeune fille apprécie sa soirée en famille, même si, dit-elle, le manque d'électricité est une épreuve. Bien sûr, ces quartiers tenus par le régime sont aussi sous le coup d'attaque, mais rien comparé à celle subie à l'est d'Alep, là où vivent les rebelles. Alors comme le rapporte le site de CNN, ce n'est pas la première fois que le gouvernement est accusé de montrer une fausse image de la Syrie. Il suffit pour cela de voir les vidéos surréalistes du ministère du Tourisme. Une schizophrénie entretenue avec l'aide de la Russie qui devient même complètement absurde, comme le souligne John Kerry, le secrétaire d'État américain. Quand j'entends mes collègues russes, je me dis qu'il y a un monde parallèle ici. Pour autant, et face à cette tournure du conflit qui prend des airs de guerre totale, le département d'État américain a fini par admettre qu'il ne disposait d'aucun plan B, c'est-à-dire d'aucun levier pour influer sur le cours des événements, laissant au front de la diplomatie son secrétaire d'État. Le président Barack Obama n'a cette dernière semaine exprimé que de vagues regrets. Quant aux deux prétendants à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump, ils n'ont pas fait mention une seule fois de la Syrie au cours du débat qui les a opposés lundi soir à la télévision.